Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons parler non pas d'une, mais de deux bandes dessinées en faisant un rapprochement un tout petit peu osé, il faut le reconnaître, tout en abordant des ouvrages qui sont proposés ici par des éditeurs dont nous ne parlons pas beaucoup, Daniel Maghen d'un côté, Des ronds dans l'eau de l'autre. Alors avant de vous donner les titres de ces bandes dessinées, Thierry, je voudrais que vous nous aidiez un petit peu à comprendre pourquoi nous les avons choisies. Déjà, comme ça, d'emblée, de façon un petit peu hasardeuse.
Alors, c'est une image qui m'a frappé. J'ai vu ces ouvrages juxtaposés sur une table de librairie dans la catégorie des coups de cœur. Et le rapprochement plus intellectuel, si j'ose dire, émotionnel, s'est imposé. Au-delà de ce qui est décrit dans chaque ouvrage, il y a une communauté d'esprit, une égalité de talent. Et puis l'occasion, comme vous le disiez en préambule, de parler d'éditeurs auxquels on n'accorde pas assez de temps lors de nos chroniques. C'est deux lectures qui m'ont laissé très ému, mais très frappé dans les deux cas.
Alors, on peut être surpris, effectivement, du choix que vous allez découvrir maintenant, parce que ça n'a pas grand-chose à voir, tout en ayant la possibilité de faire un certain nombre de rapprochements. Au niveau du dessin, c'est évidemment très, très différent aussi. On peut considérer que d'un côté, on a du dessin qui est absolument splendide, et de l'autre côté, un dessin plutôt basique. Et pourtant, les deux sont au service de ce qui nous est transmis, et ça, c'est particulièrement à souligner. Alors, il s'agit, pour le premier ouvrage, qui est un grand format de L'Enfer de Dante, adapté par les frères Gaëtan et Paul Brizzi, chez Daniel Maghen donc. Et puis de l'autre côté, Ginette Kolinka, une parution des Ronds dans l'eau, avec Aurore Donde qui est au, alors on va dire au stylet, parce qu'en fait le dessin ici est clairement fait grâce à un iPad très probablement. Voilà, donc on a affaire à deux histoires. Une histoire qui remonte au XIVe siècle, qui est plutôt un long poème, mais un poème assez terrible. Et puis de l'autre côté, une histoire vraie. Comment est-ce qu'on va réussir à rapprocher, là encore Thierry, ces deux ouvrages qui nous parlent de l'enfer, pour reprendre le titre de L'Enfer de Dante, mais des enfers très différents, l'un fantasmé et l'autre bel et bien réel.
Oui, deux évocations de l'enfer. L'enfer sous terre, l'enfer sur terre. L'Enfer de Dante, je l'avais vu, alors non pas adapté, non pas en bande dessinée, mais illustré, il y a bien des années, dans des somptueux ouvrages, avec notamment Manara et Lorenzo Mattotti, des Italiens illustrant un texte italien. C'est pour L'Enfer de Dante qui nous est proposé ici par Daniel Maghen, c'est vraiment l'occasion de parler du mot adaptation. J'avoue humblement, j'ai lu en toute petite partie L'Enfer de Dante, et c'est très difficile. C'est très touffu, ça m'a semblé très répétitif. On est dans le ressassement, la langue est belle, mais un peu hermétique. Narrativement, ça fonctionne magnifiquement, j'oserais dire miraculeusement. Dante et Virgile vont explorer tous les cercles de l'enfer pour retrouver Béatrice. Il y a une quête, un suspense, une suite de péripéties.
Un parcours qu'on pourrait quasiment qualifié d'initiatique.
Oui,
même.
J'allais employer ce terme, effectivement, parce que c'est un texte philosophique. C'est somptueux. On pense à Gustave Doré qui a illustré l'enfer aussi. C'est un noir et blanc qui ressort plus du dessin académique au sens le plus noble du terme. Les monstres de l'enfer sont saisissants. C'est du Lovecraft, presque. On est vraiment fasciné par la beauté de ce dessin et la beauté au service de l'évocation du pire qu'on puisse imaginer, des tourments de plus en plus terribles qui sont subis au fur et à mesure qu'on explore tous les cercles de l'enfer qui sont subis par les damnés. Et cet enfer-là, c'est un enfer poétique, métaphorique, un enfer sous terre. Dans cette chronique, nous le mettons en parallèle avec l'enfer sur terre, l'enfer vécu par Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz-Birkenau. Quand on parle de bande dessinée sur la Shoah, on pense tout de suite au chef-d'œuvre absolu qui est Maus, pré-Pulitzer, cette BD anthropomorphique où Art Spiegelman raconte le séjour, la vie de son père, avant, pendant et après, dans les camps de concentration. Oserais-je dire que le récit de Ginette Kolinka, ici illustré, est du même niveau? Bah oui, j'ose le dire. On y retrouve la même puissance émotionnelle, la même force dans le témoignage, le même saisissement, l'effroi qui vous gagne, comme sont paralysés par l'effroi les Dante et Virgile explorant les enfers. On est avec Ginette Kolinka tout au long de, Alors, je vais même pas parler de suspense là, je vais parler de suspense presque pour l'enfer de Dante. Si, parce que dans un premier temps, alors les mots sont piégés. Elle et sa famille sont stigmatisés en tant que juifs, mais ils passent entre les gouttes en quelque sorte. Ils arrivent à vivre, ils sont même heureux, et puis tout bascule le jour où ils sont arrêtés, déportés, et les portes de l'enfer s'ouvrent pour elle et pour cette malheureuse famille.
Il y a un mot qui résume l'histoire de Ginette Kolinka et de sa famille. C'est absurde. Enfin, je ne sais pas si ça résume tout, hein, mais à la lecture de cet ouvrage, en tout cas, on a vraiment ce sentiment très très fort parce qu'on s'imagine que cette famille va pouvoir s'en sortir. Elle part à un moment donné à la dernière limite de Paris pour aller en zone libre, mais elle se retrouve en quelque sorte poursuivie. Et puis, il y a juste une partie de la famille qui va être déportée. Et là encore, ceux qui vont être déportés vont connaître des sorts différents. On est tout près de la libération, mais c'est trop tard quand même pour eux. Enfin, il y a quelque chose d'absolument insupportable dans ce qui se passe là.
Ce qui est passionnant aussi dans ce récit, c'est la personnalité de Ginette Kolinka. C'est le fait qu'elle n'ait pas immédiatement témoigné après-guerre. En cela, je pense qu'elle est identifiable à beaucoup de survivants. Je me permets de parler à leur place parfois, enfin en l'occurrence. C'est la douleur d'avoir survécu, paradoxalement. C'est pourquoi moi ai-je survécu et pas les autres ? Est-ce que je suis légitime à témoigner? Comment je peux témoigner de l'indicible? Parce que la Shoah, telle qu'elle nous est montrée là, on le mesure en lisant ce type de livre, c'est une entreprise industrielle de déshumanisation, dont il y a peu d'équivalent, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Comment témoigner? Comment rendre ça? Et il va y avoir un déclic dans la volonté de Ginette Kolinka de témoigner, et presque un hasard aussi dans le fait que ce livre a été conçu par la dessinatrice dont nous parlons aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait surprenant ça, parce qu'effectivement, Ginette Kolinka, elle va rentrer des camps, en particulier de celui d'Auschwitz-Birkenau, mais aussi de Theresienstadt. Et quand elle arrive, évidemment, on comprend, le reste de sa famille restée en France comprend ce qui lui est arrivé, apprend ce qui s'est passé pour son père et son frère. On ne va plus rien dire à partir de ce moment-là, jusqu'en dans les années 90, où Ginette Kolinka va être interviewée par un assistant du réalisateur Spielberg. Et c'est là, alors qu'elle ne veut pas parler, qu'elle va commencer à le faire. Et au fur et à mesure, elle va le faire de plus en plus. Elle va, jusqu'à aujourd'hui, témoigner très très régulièrement dans les écoles, les universités. Et c'est une rencontre assez récente avec l'autrice de cette bande dessinée, Aurore Donde, qui va générer l'envie de la part de la dessinatrice de réaliser sa première bande dessinée et donc de participer au témoignage. On est heureux de savoir que des décennies après, il y a la possibilité encore de la transmission de quelque chose de terrible, mais de manière à ne pas oublier, Thierry.
Oui, parce que les témoins disparaissent. Les lieux sont toujours là, mais ils sont de plus en plus déréalisés. Enfin, déréalisé, je ne sais pas si ce terme convient. Je ne me suis jamais rendu dans un lieu de supplice comme les camps de concentration, mais comment imaginer ce qui s'y est passé, comment l'appréhender autrement que, je vais dire, des horreurs, comme un décor. Imaginer que des gens ont souffert, ont vécu l'enfer dans ces lieux. Il est essentiel que les derniers témoins livrent leurs souvenirs et fixent quelque chose, parce que l'oubli s'abat très vite sur tout ça, et l'oubli, c'est ce qui permet aux tyrans de recommencer, de rouvrir les portes de l'enfer, justement.
D'ailleurs, si je ne m'abuse, il me semble que c'est Ginette Kolinka qui dit qu'elle n'aime pas aller à Auschwitz parce qu'il y a plein de touristes pour prendre des photos.
C'est un livre tellement émouvant que j'ai du mal à trouver mes mots. Vous exprimez très justement ce que j'évoquais il y a quelques phrases. Comment faire que ce lieu de mémoire reste un lieu générateur de respect, d'éventuels changements d'attitude vis-à-vis de toutes les idées nauséabondes et de tous les tyrans à venir, présents et passés, et à venir. Comment faire rempart contre les idées qui ne demandent qu'à devenir réalité, malheureusement, c'est terrible.
Il y a une chose que j'aimerais encore ajouter, si je puis le faire, par rapport non pas aux thématiques nécessairement qui sont abordées ici, mais par rapport à l'attitude que moi j'ai eue vis-à-vis de ces deux livres. Le premier, L'Enfer de Dante, ne m'a pas attiré parce que je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont réussir à traiter un pareil texte dans une bande dessinée? Si ça se trouve, ça va être prise de tête, j'ai pas envie de lire ça, alors que le dessin est fabuleux. Le second m'a tout de suite donné envie. Ginette Kolinka, je me suis dit, tiens, je connais un petit peu l'histoire, je connais aussi, enfin, de loin évidemment, mais pour l'avoir écouté, son fils, Richard, fameux batteur de téléphone. Alors, j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire de la famille. Et puis, quand j'ai ouvert le livre, là, pour le coup, c'est le dessin qui m'a rebuté. Et en fait, une fois l'effort fait d'ouvrir et de lire ces livres-là, eh bien, je trouve que l'un comme l'autre ont tout à fait leur raison d'être, pleinement.
J'ai eu un peu la même attitude que vous, surtout vis-à-vis de l'enfer de Dante. J'avais vraiment peur du pinsum scolaire. J'avais peur de quelque chose d'un peu gratuit, d'un peu virtuose. Et en fait, c'est totalement prenant. J'étais moins sévère pour Ginette Kolinka. J'avais fait abstraction du côté... Alors, je cherche un terme qui conviendrait à ce type de dessin. Vous l'aviez trouvé, je crois, quand on préparait l'émission.
Un dessin simple, en tout cas.
Simple, voilà. Alors, la simplicité, d'ailleurs, c'est pas un gros mot. C'est même la plus belle des conquêtes. Ça m'a pas gêné. Cette simplicité... peut-être permettait une mise à distance nécessaire quand Ginette Kolinka évoque le côté le plus sordide de la vie au quotidien dans le camp. Peut-être que c'était nécessaire d'avoir un dessin moins virtuose, un dessin qui témoigne tout simplement.
Nous vous conseillons ces lectures. Si vous avez envie de les tenter, je pense que vous n'en sortirez pas indemne, comme nous-mêmes en tout cas. L'enfer de Dante, avec au pinceau, au crayon surtout, mais également à la réinterprétation du texte, les frères Gaëtan et Paul Brizzi, une parution Daniel Maguen, et puis pour Ginette Kolinka, c'est chez Les Ronds dans l'eau, éditeur d'Aurore d'Onde, bien sûr, en compagnie de Ginette Kolinka. Merci beaucoup Thierry d'avoir partagé avec nous aujourd'hui ces lectures. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre ouvrage un peu plus léger, mais qui fait aussi réfléchir.